Je vais pas essayer de le définir parce que je crois pas que on puisse définir un geste. D'autant plus quand il est au pluriel. Geste spéculatif au pluriel. Je vais tenter à ma manière, qui n'est pas la manière, d'en dramatiser le sens. À quoi répond-il? À quoi répond cette expression? C'est-à-dire aussi, à quelle manière de s'engager, et c'est ce que Didier avait déjà dit, le geste spéculatif situe, le possible situe, à quelle manière répond-il de s'engager dans le présent? Et donc, à quelle manière de s'engager dans le présent notre réunion pourrait-elle répondre, ou cherche-t-elle à répondre? Pour commencer cette opération de dramatisation, je voudrais faire exister un contraste qui est avec la philosophie spéculative. C'est un peu nécessaire, m'a-t-il semblé, parce que notre réunion allie des philosophes et des gens qui ont d'autres pratiques, qui sont engagés dans d'autres types de préoccupations. En ce sens, elle se veut expérimentale, puisqu'il s'agit d'expérimenter avec des questions qui ne se définissent pas ou qui ne devraient pas se définir d'abord comme philosophiques, plutôt expérimenter ce que peut apporter pour elle des concepts qui éventuellement, comment dirais-je, sont produits par des philosophes. C'est un contraste, c'est pas une opposition, c'est ce que je voudrais, donc entre gestes spéculatifs et les philosophies spéculatives. Je vais le montrer avec trois philosophes que j'aime et grâce auxquels, pour moi, la notion de geste spéculatif a pris sens. Whitehead, Leibniz et James. Tous, comment dirais-je, ont créé des concepts qui avaient pour vocation ce qu'on associe souvent avec la pensée spéculative moderne, échapper aux abstractions qui démembrent ce que pourtant nous savons. Mais je voudrais montrer qu'ils l'ont fait sur un mode assez particulier, en tout cas qu'on peut les associer avec ce mode assez particulier, même si c'est moi qui les associe. Dans les trois cas, il ne s'agira pas pour eux de dépasser l'abstraction ou de la critiquer comme une espèce de distorsion du vrai. Il n'y a pas un espèce de mythe de la caverne dans leur pensée, pas d'accès à une vérité qui guérirait l'abstraction, de l'abstraction, une forme d'intuition spéculative ou intellectuelle qui la transcendrait. Non, avec Whitehead, par exemple, on tombe sur des concepts qui semblent, comment dirais-je, parfaitement... atteindre une telle vérité, puisque il va s'agir éventuellement de Dieu et de tout ce qui existe en tant que ça existe. On a l'impression qu'on a vraiment le retour d'une pensée, d'une philosophie spéculative en plein XXe siècle. Et pourtant, il y a quelque chose de curieux. C'est que ces concepts sont agencés dans le système que propose Procès et Réalité, qui sont agencés dans Procès et Réalité, ils sont d'une abstraction radicale. Ils sont littéralement muets quant à la manière dont ils peuvent communiquer avec une abstraction. On les lit, on ne comprend rien, on ne voit rien, on ne pénètre rien. Sauf quelques... Mais ça s'appelle les catégories de l'explication. Alors là, on se dit, ah tiens, mais c'est... En général, on arrête de lire Procès et Réalité après 30 pages. Que se passe-t-il? Eh bien, il me semble que Whitehead, justement, n'essaye pas de critiquer l'abstraction. Pour Whitehead, l'abstraction est ce qui nous fait sentir et penser. Et bien sûr, elle est partielle, elle est sélective. Toute abstraction est partielle, partielle, partielle et sélective. Mais pour Whitehead, toute pensée, toute perception est partielle, partielle, sélective. Toute pensée n'existe qu'à faire importer. Aucune, en fait, n'est détachée, désintéressée, comme dirait Donna, innocente. L'innocence n'est pas de ce monde. Nous ne pouvons penser sans abstraction. Mais, et c'est ce que Whitehead littéralement crie dans « Science et le monde moderne » avant de s'engager dans son aventure spéculative, il faut prendre soin de nos modes d'abstraction. Et pour Whitehead, à ce moment-là, c'est effectivement l'utilité même de la philosophie que de prendre soin de nos modes d'abstraction. Et je propose ici ce possible, donc, qui situe le penseur, ce possible qui le fait penser, je propose de l'associer à cet énoncé. C'est un véritable cri, en fait, que Whitehead pousse, ou plutôt que le monde moderne fait pousser à Whitehead. Prendre soin, il faut prendre soin de nos abstractions, signifie que c'est une tâche, c'est même quelque chose qui fait crier. Le monde moderne serait alors, de son point de vue, caractérisé par une pensée qui a été capturée par des abstractions, conflictuelles d'ailleurs, qui démembrent nos savoirs, qui les mettent en opposition, le règne de la liberté, le règne de la nécessité par exemple, qui anesthésient, qui font nier ou expliquer en éliminant ce que pourtant nous savons. Et donc, vous l'aurez compris, ma proposition est que cet énorme et abstrait arsenal qu'on appelle la philosophie spéculative de Whitehead peut être lu comme réponse à ce cri. Et réponse qui ne transcende pas l'époque qui a fait crier ou qui a mordu Whitehead. Il ne prend pas son époque et le problème de son époque, je dirais que c'est un peu ce que Bergson fait, comme un marchepied qui lui permettrait d'atteindre une vérité plus haute, qui par exemple lui permettrait de penser l'abstraction à partir de son pouvoir qui serait général alors de capturer la pensée. Non, il ne pense pas l'abstraction en général, l'abstraction, le rapport général de l'esprit humain à l'abstraction, c'est ici qu'il crie. Donc, et il s'agit donc plutôt de faire sentir que nos modes d'abstraction auxquels les modernes ne prennent pas le soin, par rapport auxquels les modernes ne prennent pas le soin que ce qu'ils nécessiteraient, eh bien, ont pris alors le pouvoir de juger, de nier, ont pris la pensée dans une ornière. Une ornière, c'est un mot de Whitehead. Quand on pense dans une ornière, on va vite, on va loin, mais on va toujours dans la direction proposée par l'ornière. On est pris dans l'ornière. Ce serait donc des abstractions qui, comment dirais-je, que nos abstractions fassent ornière pour nous modernes. C'est ce que Whitehead essaye de faire sentir. Et faire sentir, ça veut dire aussi faire sentir, si ce n'est qu'une ornière et pas un destin de l'esprit humain, qu'il est possible d'échapper à cette ornière. Et effectivement, dans Process and Reality, après l'articulation des concepts quasi muets, ils se mettent, enfin, cela se met à parler, on pourrait dire, mais seulement à partir d'applications. Ce que Whitehead appelle des applications. À des cas, ces cas sont énormes, on peut oublier que ce sont que des applications, ça ressemble à une philosophie. Mais il a dit, ce sont des applications, où il teste ces concepts au regard de situations le plus souvent conflictuelles, qui témoignent de l'ornière où nous sommes. Et leur efficace, alors, de ces concepts, n'est pas de traduire une quelconque vérité plus haute que notre époque, effectivement, c'est de transformer, effectivement, notre rapport aux abstractions qui nous font penser. Il s'agit donc, je le disais, de faire sentir qu'il est possible d'échapper à l'ornière, qu'il est possible de prendre soin de nos abstractions, de nos modes d'abstraction. Et l'imposant édifice conceptuel de la philosophie de Process in Reality pourrait être lu comme n'ayant pas du tout pour but de démontrer ce possible, de passer du sens du possible à « c'est le cas », pas du tout démontrer ce possible, plutôt de lui donner consistance, c'est-à-dire de nous mener de situation en situation et d'opérer à nouveau ce faire sentir qu'il n'est pas nécessaire de penser ainsi. Les concepts spéculatifs de Process and Reality sont agencés de telle sorte que le caractère partiel et sélectif que l'on associe à l'abstraction, en fait, ne nous sépare pas d'une quelconque vérité concrète, une vérité du monde concrète, qui transcenderait leur caractère abstrait. En fait, si Processed Reality est une cosmologie, on pourrait dire que c'est relié au fait que cette cosmologie, cette pensée qui n'est que application, en fait, affirme que rien n'existe. All the way down, ça, c'est jusqu'à tout en bas. C'est une expression que j'ai décidé d'employer parce que la première fois que j'ai parlé à Cerisy, en 81, mon exposé s'appelait des tortues jusqu'en bas, turtles all the way down. Donc j'ai repris all the way down en souvenir. Donc rien n'existe all the way down. Il n'y a pas quoi que ce soit qui échappe à cela, qui ne doive son existence à une décision quant à une manière de sélectionner, de faire importer ceci plutôt que cela, ainsi plutôt qu'autrement. Mais aussi, all the way down, toujours, aucune décision n'a le pouvoir de s'imposer comme légitime, finale, déterminante. Rien qui existe n'a le pouvoir de transcender l'aventure où sera sans cesse rejouée la manière de faire importer ce qui a été décidé, la manière dont une décision fera héritage, aura des suites. Donc c'est l'aventure all the way down que les concepts whiteheadiens sont faits pour affirmer. Tout ce qui semble avoir l'autorité de nous dire comment penser, comment dirais-je, est ornière dont il est possible, dont il n'est pas nécessaire, mais dont il est possible qu'il faut suivre en sachant qu'il est possible d'y échapper. Aventure donc qui n'a rien à voir avec une espèce d'aventure odysséenne, ramenant finalement Ulysse au repos d'Ithaque. Il n'y a pas de Pénélope, il n'y a pas de vérité concrète qui attend Ulysse. L'efficace des concepts whiteheadiens, ce serait plutôt de créer un certain rapport d'humour aux abstractions qui prétendent autoriser un jugement, définir ce qui doit importer, ce qui peut ou doit être négligé ou ignoré. On pourrait dire qu'il s'agit de démoraliser l'Odyssée. Pénélope, la fidèle, Circé, l'enchanteresse, ou les terribles sirènes, etc. Rien ne dit quel doit être le choix d'Ulysse entre eux. N Odyssée possible, selon, et nul ne dit que les sirènes allaient attirer Odyssée, Ulysse à la mort. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte une fois qu'il a choisi Pénélope. Et encore, il y a un feuilleton à la TV pour le moment où on se rend compte que c'est bien compliqué quand ils rentrent à Ithaque. Hein. Ils ont introduit le stress post-traumatique. Donc, cet humour, pour moi, il incarne un peu la fable du rabbin qu'on consulte sur un point de pratique, évidemment, toujours, et qui, au premier interlocuteur, dit « Ben oui, tu as raison. » Et puis au second, qui pourtant dit le contraire, « Tu as raison. » Et puis à son assistant qui dit « Rabbin, tu peux pas. » Etc. « Tu as raison aussi. » Bon, ben ça c'est l'humour au sens où chacune de ces thèses ne peut pas être détachée de ce qu'elle fait importer, et dès qu'elle est prise comme faisant importer ceci plutôt que cela, elles ne se contredisent plus. Donc si on associe une thèse à ce que cette thèse fait importer, comment dirais-je, elle devient beaucoup plus intéressante. Il ne s'agit pas de critiquer, au contraire, on ne peut pas vivre sans faire importer, mais elle perd son pouvoir de faire ornière, c'est-à-dire de dire « hors de cela, pas de salut » ou « choisis ton ornière », mais pas les deux à la fois. Que le geste spéculatif puisse être associé au cri ou à la mordure sur d'une époque, c'est peut-être en lisant Leibniz finalement que je l'ai compris d'abord. Le système conceptuel de Leibniz est au moins aussi abstrait que celui de Whitehead. D'ailleurs, Whitehead cite beaucoup Leibniz, tous deux mathématiciens. Système hyper-rationaliste, dira-t-on. Et pourtant, pour moi, lié à son époque, où d'ailleurs Leibniz, comme vous le savez sans doute, tentait d'être d'être diplomate et de penser la paix. Et cette époque, il faut le rappeler, est celle d'une Europe ravagée par les guerres de religion, c'est-à-dire où on découvre que les vérités où il était question de salut peuvent tuer, et non pas des hérétiques, mais mettre les États en branle les uns contre les autres. Les vérités religieuses font s'entretuer. Bien, moi j'aime bien lire Leibniz, geste spéculatif, à partir de ce qu'il appelait son grand conseil moral. Lorsque tu vas agir, dic cur hic, respice finem. Donc dis pourquoi ceci, cette action. Cette action peut être cette pensée ou cette conclusion. Considère la fin. Et il y a de l'humour ici encore. Hein, c'est pas réfléchis bien. Leibniz n'est pas le père de la pensée réflexive. Humour ici encore parce que Leibniz précise bien qu'il s'agit d'un artifice. Et en effet, répondre en vérité à cette question n'a aucun sens dans le système de Leibniz. Nul, sauf Dieu qui ne répond à aucune question, n'a accès en vérité à ce pourquoi. Nul ne connaît la fin qu'il poursuit. Au moment où Adam croquait la pomme, événement et action par excellence, Adam, au moment où il croquait la pomme, n'aurait pas pu dire pourquoi, à quelle fin. Parce que c'est le monde tel qu'il avait été choisi par Dieu, ce monde-là, qui conspirait dans son acte. Ça veut dire que entendre le conseil de Leibniz, suspend ton action, c'est avant tout peut-être laisse-toi affecter par ceci que tu vas faire dans ce monde. Laisse-toi donc affecter par ce monde. Ne donne pas aux raisons qui te feraient agir, qui sont toujours générales, qui sont toujours valables pour une foule indénombrable de mondes distincts, un pouvoir qu'elles n'ont pas. Suspends tes raisons, artifice, et non pas pour connaître les vraies raisons. Suspends tes raisons au sens où, all the way down, de nouveau, aucune raison d'agir n'a le pouvoir de transcender ceci. Mais voilà, Leibniz, justement, ne propose pas la moindre raison qui transcendrait celle qui, à son époque, font s'entretuer. Ce qu'il propose, c'est une transformation de nos rapports aux abstractions, aux raisons abstraites qui prétendent, abstraites puisque valables en général pour un nombre, une foule indénombrable de mondes distincts, aux raisons abstraites qui prétendent au pouvoir de nous commander d'agir. Humour donc, puisque nous n'avons pas le pouvoir d'accéder aux raisons qui nous font agir, mais nous pouvons prendre l'habitude de cet artifice qui est de les exposer au monde, à ce monde, c'est-à-dire d'éviter qu'elles fassent de nous des automates obéissants et, en l'occurrence, meurtriers. William James, enfin, troisième, est ce philosophe que les dilemmes abstraits qui dominaient son époque ont mené, on le sait, au bord du suicide. Comment agir si, comme le veut le rationalisme déterministe, hors duquel, à l'époque, il n'y avait pas de salut, si, comme le veut, tout est joué. La vie vaut-elle la peine d'être vécue s'il faut accepter que la capacité de faire une différence ne soit qu'une illusion? Souvent, on a considéré que le pragmatisme proposé par James, qui associe la valeur d'une vérité à ce qu'elle rapporte, traduit une philosophie de businessman. On a traduit tranquillement ce qu'elle rapporte à ce qu'elle te rapporte et que crève le monde. Mais il faut entendre le cri de James comme celui qui a été mené au bord du désespoir par cette idée déterministe, c'est-à-dire ce que rapporte cette idée, c'est le désespoir. Et le problème qu'il pose, le problème qui, on pourrait dire, le fait crier, au départ, ces doctrines modernes, académiques notamment, qui propagent en toute bonne conscience une idée, des idées aux conséquences désespérantes. Pour James, ce que rapporte une idée, doit donc être compris en termes des conséquences de cette idée. Et quand cette thèse se déploie dans une pensée de type spéculative, c'est le monde lui-même qui fait conséquence. C'est le monde qui est se faisant, irrémédiablement se faisant, qui fait conséquence, et les idées participent à la fabrique de ce monde se faisant. Donc nos idées font monde sur un mode ou sur un autre. Et le cri du pragmatisme, alors, tel qu'on le retrouve chez James, c'est « Faisons-nous par nos additions, c'est-à-dire par les idées que nous ajoutons à la réalité, que la valeur de celle-ci s'élève ou s'abaisse. Ces idées sont-elles un gain ou une perte pour la réalité ?» C'est ici, bien sûr, la question qui compte, qui fait épreuve, pas la réponse. Mais voilà, c'est le point et l'humour du pragmatisme, celui qui dirait « Oh ben, si j'ai aucune certitude sur quelle idée va être un gain ou une perte, je m'abstiens », ben celui-là participera aussi à la fabrique du monde. Et il participera sur un mode où, en fait, cela fera ornière, puisque ce qui sera unilatéralement privilégié, c'est les idées qui viennent avec une garantie, une certitude. C'est l'ornière de la certitude qui sera, creusée. J'ai fini maintenant avec James, je prends évidemment plus de temps que je voulais, mais enfin ça fait rien. James m'intéresse parce que justement, il me semble qu'il nous montre à la fois ce n'est pas possible, il doit être possible d'échapper à ce monde qui réduit au désespoir. C'est une question vitale, de vie ou de mort pour lui. Et aussi, peut-être, justement, à cause de cette non-protection par rapport à ce qui le fait crier, il a été le plus vulnérable à l'accusation de faire passer pour vrai seulement ce qui aide à vivre. On a dit, bon, si James introduit ça, c'est parce que ça aide à espérer. Il est mieux de penser que nous pouvons faire une différence que d'affronter la terrible vérité, que nous ne le pouvons pas. Donc James est vraiment vulnérable à une accusation qu'il s'agit de penser, puisqu'elle pourrait bien tomber sur le geste spéculatif lui-même. Pensons impossible, ça va nous aider, c'est bon pour la santé. Donc, c'est pour ça que je voudrais m'adresser à ce contraste maintenant entre la terrible vérité et ceux qui produiraient de pauvres moyens d'échapper à sa dureté, puisque nous sommes, enfin, ceux qui pensent gestes spéculatifs peuvent être menacés par cela. Je vais d'abord me tourner vers Foucault. Pourquoi ? Parce que cette terrible vérité, que James refuserait, toute cette terrible vérité, mais nous sommes enfermés dans nos abstractions, qu'on pourrait répondre à Whitehead, pourrait bien marquer ce que Foucault appelle, dans l'herméneutique du sujet, une mutation dans le rapport à la vérité. Il écrit alors que jusque-là, dans cette tradition de la vérité qui existe depuis les Grecs, le sujet n'était pas défini comme capable de vérité, mais que la vérité, elle, était capable de transfigurer, de sauver le sujet, le moment cartésien, début du monde moderne, marque de naissance, propose que fait exister une vérité telle que le sujet en est désormais capable, mais que cette vérité, elle, n'est plus capable de le sauver. Donc nous savons, mais cela peut nous désespérer. C'est bien cette vérité-là qu'on opposerait à James quand on dit tu te rassures, ça te fait du bien, alors dis que c'est vrai. On pourrait dire que ce moment cartésien, moi je l'appellerais aussi le moment galiléen, mais pour aller vite. Pourquoi ? Parce que, alors que Descartes, nul ne croit vraiment à sa certitude, à la vérité à laquelle il a prétendu avoir accès, ça fait partie de l'histoire de la philosophie. Par contre, Galilée, lui, a bel et bien fait bifurquer nos jugements. La première démonstration expérimentale, événement, c'est ce point où il peut dire « Je montre et essayez de me de me contredire, vous n'y réussirez pas, que ici, ce que je décris, la manière dont les billes tombent, eh bien, c'est les billes, c'est le monde lui-même qui est responsable de ce que je peux le dire. J'ai le monde avec moi. Et du coup, le reste, et c'est là la bifurcation, le reste, là où on ne peut pas dire j'ai le monde avec moi, ce ne sera que subjectivité, ce ne sera que fiction. Donc là aussi, on peut dire, nous avons accès à la vérité, mais évidemment, la manière dont l'habit tombe n'est pas capable de nous sauver, simplement de faire taire ceux qui prétendraient comprendre ce mouvement autrement. Ce point de, je vais maintenant abandonner Foucault abandonner, pas contredire, mais faire exister quelque chose que j'ai pas vu chez Foucault, qui est le caractère anxieux de cette vérité qui n'est pourtant pas capable de nous sauver. Et donc ici, j'en appellerai à Stephen Toulmin, Cosmopolis, c'est Bruno qui m'a rappelé qu'il fallait relire ça, pour comprendre ce qui fait que, aujourd'hui, ce double événement galiléo-cartésien existe parmi nous plutôt sur le mode de l'anxiété, en fait. Comme si cette vérité qui est devenue incapable de nous sauver, nous devions y avoir accès. L'accès que nous en avons avait pour premier sens de nous protéger d'un grand péril. Il faut que nous ayons accès à une vérité, sinon. Et c'est Stephen Toulmin, dans son Cosmopolis, qui a parlé de l'agenda caché de la modernité, qui aurait été de permettre de décision de tourner le dos une bonne fois pour toutes à une période, on oublie, dit-il souvent, que l'âge moderne suit la Renaissance, à une période trouble, dangereuse, violente, spéculative, dont on sait qu'elle faisait communiquer ce que nous voulons bien séparer, savoir, technique, magie, etc. Aussi, époque où a commencé la guerre des religions, mais Dieu sait que l'âge moderne, comment dirais-je, l'a maintenu avec fermeté. Si donc on entend l'âge, l'agenda de la modernité selon Toulmin, cette vérité qui n'est pas capable de nous sauver, serait rempart avant tout contre l'irrationalité violente. Elle ne peut plus nous sauver, dirait Foucault, mais Toulmin dirait, son agenda n'est pas de nous sauver, ce qu'elle a à faire est de faire régner une paix de la raison qui nous empêche de partir dans toutes les directions, de nous entretuer. Et cet agenda-là, il est toujours actif, puisque il suffit de penser à la protestation horrifiée qu'on est toujours prêt à entendre si on peut être accusé de relativisme. Vous ouvrez les portes à l'arbitraire, il faut des garanties, il faut des raisons susceptibles d'autoriser votre position, et ça nous intéresse puisque le geste spéculatif pourra susciter cette protestation horrifiée. Rien n'autorise, comment dirais-je, de penser à partir d'un possible dont on dit il me fait penser, oui, mais de quel droit? Et pourtant, il ne s'agit pas de dire que ces penseurs que j'ai nommés font retour, comme selon Foucault, à une vérité qui sauve. S'il y a geste spéculatif et non pas vérité qui sauve, c'est peut-être parce que tant James Whitehead et Leibniz que Leibniz font en appel à ce que j'appellerais plutôt un art du discernement, qui m'intéresse puisque d'autres peuples savent cultiver un tel art, c'est-à-dire savent interroger une décision du point de vue où la différence entre un sorcier et un guérisseur, je l'ai appris de Toby Nathan, pas à partir de critères généraux, mais savent cultiver cette possibilité de sentir de quoi il s'agit. Or, quand Il s'agit de prendre soin de suspendre son action, d'interroger une idée avec ses conséquences. Il s'agit en effet de discerner, c'est-à-dire d'évaluer sans juger, sans critères garantissant un jugement. On pourrait dire alors, si on reprend ça du côté de cet art du discernement, que cet art a été disqualifié depuis que notre tradition, c'est-à-dire bien avant l'agenda de la modernité, a désigné le peuple comme un troupeau sans discernement, vulnérable à la séduction, qui a besoin d'un guide, qui a besoin d'être gouverné. Et la Renaissance, alors, serait ce moment terrible où le troupeau a échappé à ses bergers, ce moment débridé qui brouille toutes les distinctions les plus stables, qui déchaîne tant le génie que la violence. Et les guides modernes, dans cette proposition extraordinairement galopante, comme dirait Deleuze, les guides modernes ne sont plus les guides anciens qui guidaient, qu'orientaient une vérité capable de sauver. Ils ont un agenda différent. Le rôle de cette vérité, c'est de protéger ce troupeau de la monstruosité qui s'est déchaînée une fois, qui ne se déchaînera plus. Bruno Latour a cette image que j'adopte et que je lui vole. Penser, c'est voler. Le progrès moderne n'est pas se dirigeant vers. C'est plutôt une fuite à reculons, comme si les modernes étaient poursuivis par un monstre qui les dévorerait à la moindre faiblesse. Un monstre séducteur, qui plus est, hein, puisque ce sera les sirènes d'Ulysse, par exemple. Donc, je vais ralentir ici parce que, si c'est vrai, si la vérité cachée de notre tradition, c'est la destruction des arts du discernement, le peuple comme troupeau, etc., eh bien, il n'y a pas moyen d'hériter de cette tradition, seulement de la désavouer, seulement de nous libérer de cette question de la vérité qui nous empoisonnerait. Et je crois que l'idée qu'il est bon de désavouer, de se libérer d'eux, est un geste moderne. Donc, il s'agit plutôt de voir d'autres manières d'hériter de cette tradition. Foucault lui-même avait commencé à la fin de sa vie, il explorait le courage de la vérité. Mais je voudrais, moi, maintenant, et c'était le titre de, j'y arrive maintenant, de mon exposé, me tourner vers un philosophe complètement insupportable, hautain, mais un véritable autochtone, celui qui a vraiment pensé comment hériter de cette tradition. Donc, Étienne Souriau. Étienne Souriau avait une trop haute idée de son héritage, pour s'arrêter une seconde à ce misérable rôle de la vérité moderne de protéger le troupeau. En fait, il ne s'adressait qu'à ses pères, qu'au génie de par le monde, enfin, de par, non, pas le monde, hein, pas de génie Bambara, s'il vous plaît. Non, chez les Grecs, parfois un petit Chinois. Et encore, ça va pas très loin avec la Chine. Qu'on ne parle pas à Souriau de cette vérité cartésienne auquel il faut s'accrocher, c'est, pour lui, c'est le problème. C'est dramatique, dit-il, c'est dramatique. D'écarter dans l'obscurité, tout le trompe, tout peut lui mentir, et il a juste cette petite lampe, ce petit rond de lumière. Je pense, je suis. Mais ça ne tient pas, ce rond de lumière. Il suffit que ça s'interrompe, et boum! Il s'évanouit, plus de jeu, plus de pense, l'obscurité règne. Il n'y a rien de plus dramatique, dit Souriau, que la vérité, que cette vérité cartésienne. Et on pourrait dire, il l'a pas dit, mais je fais le parallèle, Galilée aussi. Ça marche pour les corps qui tombent, qui roulent dans un monde sans frottement. Un peu de frottement, ça ne marche plus. L'idée de se défendre contre la subjectivité, contre la fiction, avec ses réussites expérimentales qui sont rares, extraordinairement sélectives et vite brouillées, c'est aussi l'idée la plus dramatique possible. Souriau dirait drame, mais drame d'une question mal installée. Tous les drames ne se veulent pas, ici, c'est un drame qui traduit une mauvaise position du problème. Et de fait, Descartes et Galilée donne des méthodes, méthodes cartésiennes, méthodes dites, comment dirais-je, scientifiques. Et c'est là que le drame tourne en ornière, c'est-à-dire ne pas lâcher cette chose qui ne demande qu'à être lâchée, qui ne tient pas, qui ne tient qu'à un fil, en faire un câble qui nous garantira de manière sûre contre l'obscurité qui règne autour de nous, cette obscurité qui n'est que le contraste entre la petite lumière et le noir. Et comme on sait, beaucoup de recherches scientifiques aujourd'hui répondent parfaitement à la fable du lampadaire. Pourquoi cherches-tu tes clés ici dans le noir depuis une demi-heure avec mon aide? Bah, tu es sûr que tu les as laissées ici? Ben non, 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 pas du tout, je suis pas sûr du tout, mais c'est le seul endroit où c'est éclairé. Donc voilà, voilà la vérité, comment dirais-je, le petit rond de lumière désespéré de Descartes se transforme en lampadaire au pied duquel il faut chercher. Alors pour Souriau, si cette espèce de vérité apparaît comme un drame, si l'obscurité menace sans cesse de tout engloutir, c'est d'abord parce que cette vérité de Descartes n'a pas gagné sa consistance. Et c'est bien de gagner qu'il s'agit. Elle risque de se perdre. De la même manière, la réussite expérimentale de Galilée, le moindre, paramètre faisant intrusion, c'est perdu aussi. Gagner pour Souriau, ce sera toujours, en termes de trajet qu'il pensera. Gagner une consistance, c'est, le terme c'est instaurer le long d'un trajet. Et ce trajet a toujours pour point de départ une situation questionnante. Et la situation questionnante, c'est, on retrouve ici, on pourrait dire la formule qu'on peut associer au geste spéculatif partant d'un possible senti, de la morsure d'un possible qui situe le penseur, c'est bien ça la situation questionnante. La situation questionnante, c'est pas une question en général, hein. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous espérer? Non, non, que vas-tu faire ici? On retrouve aussi l'insistance de Leibniz ici. La situation questionnante, elle met en tension ici. Et elle est toujours adressée à celui qui devra mettre en œuvre le trajet de réponse. Celui qui est mordu par la question, celui à qui ce qui le met en œuvre demande « Que vas-tu faire de moi ?» Si c'est de vérité qu'il s'agit, la question ne sera pas de répondre en vérité, la question sera de faire exister la vérité. C'est la vérité elle-même qui demande à celui qui est mis à la question, ou plutôt mis à la devine, « Que vas-tu faire de moi ?» Et selon qu'il réussira ou ratera ce trajet, la vérité gagnera sa consistance ou s'évanouira comme une âme lamentable. Ce dont Souriau parle quand il parle de trajet, c'est, on pourrait dire, non pas une question exister, pas exister, ça c'est une question extraordinairement, qui toujours ne tient qu'à un fil. J'existe, je suis, je pense. Non, non, c'est la mise au monde de quelque chose qui demande à être mis au monde. On peut parler de drame ici, mais c'est un drame de mise au monde. De mise au monde de ce qui, une fois instauré, aura gagné consistance, un certain pouvoir de tenir tout seul, de consister. Souriau dit que quand l'artiste a réussi l'œuvre, puisque c'est avec l'œuvre et l'œuvrant qu'il agence ces concepts, mais qui valent pour toute mise au monde, eh bien, cette œuvre tient toute seule. Et il est là, lui, artiste. Le premier à subir l'efficace de l'œuvre qui est capable de le recruter, de le faire sentir, de le faire penser. Donc, l'agent, celui qui, doit répondre au trajet, à la question « devine comment m'instaurer, où tu seras dévoré ?» L'agent n'est pas responsable au sens du sujet humain, responsable à tout, de tout, etc. Non, non, il est responsable ici, toujours ici. Et le temps de l'instauration. Il est mis à la devine et il est responsable de tenter de répondre à la question le temps où cette question se pose effectivement, le temps du trajet. Et c'est pendant le temps du trajet, tant que l'œuvre d'Isurio est en devenir, qu'elle est en péril et que lui-même est responsable. On peut donc parler de responsabilité, ce terme qui nous poursuit dans notre histoire. Qui est responsable? Est-ce la bille de Galilée ou sont-ce les idées de Galilée? On peut parler de responsabilité, mais la responsabilité elle-même chez Suriau est instaurée. On retrouve ici Deleuze, lecteur de Suriau, parce qu'on peut dire que quand Deleuze, dans Divers et répétitions, dit « l'idée fait du penseur une larve », c'est bien ça la première, une larve donc, au sens d'un embryon, un être qui n'est pas encore stabilisé dans ses catégories, d'organes, etc. Eh bien, c'est parce que la première responsabilité de l'œuvrant, de l'agent d'instauration de Suriau, c'est de réussir à mettre à bas ce que il voudrait, ce qu'il pense qu'il devrait, ce qu'il pense qu'il pourrait, ses projets, ses intentions. Il doit se faire agent, c'est-à-dire devenir susceptible des métamorphoses que, dit Deleuze, seule une larve peut subir. C'est le sens même du blason spirituel qu'on retrouve sans cesse chez Suriau, ferveur et lucidité. Ferveur au sens du il doit être possible de deviner, ferveur qui doit continuer tout le long du trajet, il doit être possible, et lucidité, art du discernement, c'est-à-dire refuser les rêves chimériques de « et je ferai tout ça, et cela me permettra tout ça ». Non, non, devine, reste sur cette chose qui te demande de deviner. Refuse les rêves chimériques, fais-toi ressource pour ce qui demande à venir au monde. Donc, ferveur et lucidité m'intéressent justement parce que, c'est ce que j'ai proposé comme titre, parce que si ce sont deux termes surannés, la pensée de Suriau a une certaine dimension surannée, emphatique, etc. Mais ce sont deux termes intéressants parce que justement, souvent on associe la ferveur à une vertu brûlante et la lucidité à une vertu froide. Bien, ferveur et lucidité, c'est comme le mariage non contradictoire entre le brûlant et le glacé. Et peut-être que justement, ce possible, en tant que, appel brûlant, ce doit être possible, ça pourrait être possible, et l'art du discernement, auquel tant Suriau que James et que Whitehead aboutissent, pourrait être pris comme ce mariage, de la ferveur et de la lucidité. C'est peut-être quelque chose qui pourrait donc nous intéresser, nous qui sommes réunis par le geste spéculatif, que d'oser poser la question en termes, c'est une épreuve, de ferveur et de lucidité. J'avais l'intention de tenter d'expérimenter cette chose, mais je vais le faire en 2 minutes, juste après on pourra discuter. En disant, la situation questionnante, au sens où elle demande ferveur et lucidité dans le trajet de celui qui tente d'y répondre, est très intéressante et peut nous mettre à l'épreuve aussi, justement, sur comment nous nommons une situation. Et donc j'avais préparé une manière de contraster, nommer la situation qui aujourd'hui nous concerne, de la nommer soit anthropocène, soit Gaïa. Et j'ai tenté, comme vous savez, l'anthropocène est quelque chose que les géologues nous proposent, mais qui a extraordinairement de retentissement aujourd'hui. C'est comme si elle était bonne à penser. Faut se méfier de nous quand on trouve quelque chose de bon à penser. C'est que parfois on évite une question. Et effectivement, Anthropocène ne suscite pas beaucoup de ferveur et n'aide pas à la lucidité. Pas de ferveur, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est comme si la question était virtuellement posée. était virtuellement résolu. Des géologues virtuels, plus tard, pourront déjà déchiffrer que quelque chose de bizarre a commencé avec les humains, des traces géologiques qui témoignent de notre activité, mais eux sauront si ça c'est si quelque part a réussi à s'en tirer, dans ce cas ce sera, ou si ça, ce que nous vivons aujourd'hui, sont les prémices d'une transformation radicale du régime planétaire qui marquera le type d'épisode qu'ils associent par exemple à la fin des Crétacés, 66 millions d'années déjà, qui a vu disparaître une bonne majeure partie des vivants sur Terre. Donc, pas beaucoup de ferveur puisque la réponse existe déjà. Comment aurons-nous répondu ? Comme au futur antérieur, nous sommes entre deux eaux. Et pas de lucidité non plus, parce que qui est Anthropos ? Anthropocène. Pas de lucidité et une chimère dangereuse. Est-ce que la menace que nous rencontrons ne serait-elle pas celle, Felix Culpa, qui ferait que le genre humain devrait se réconcilier pour y répondre, se mobiliser, oublier les crimes de ceux qui ont dit « nous sommes tous des humains, des gens pour qui d'autres choses importaient », etc. Est-ce que nous ne sommes pas susceptibles de rêver que finalement la menace nous permette d'accomplir le rêve moderne d'une humanité une, quelles que soient ces croyances qui nous divisent, etc. Donc, peu de ferveur, mais par contre, la possibilité très dangereuse d'un merveilleux manque de lucidité. Il n'est plus temps de discuter de toutes ces différences. Nous devons penser ensemble. Ça s'appelle la mobilisation. Alors là aussi, hommage à Bruno qui lui a produit cette autre figure, Facing Gaia, dans ses lectures Lovell. C'est-à-dire, ça correspond à cette fuite à reculons. Cette danseuse qu'il a filmée, qui est sur son site, qui fuit à reculons devant ce monstre, elle est une moderne, puis se retourne, et effroi, ce qui devrait la préoccuper vraiment était derrière elle, et vient à toute vitesse. Qu'est-ce qui vient? Facing Gaia, c'est donc pas peindre Gaia au sens où elle aurait une figure, mais oser se retourner et regarder. Bon, eh bien, ça, je dirais, Facing Gaia s'adresse non pas au genre humain, non pas à Anthropos, mais à celle qui est en fuite. C'est celle qui est en fuite qui a à faire face à Gaia. Et donc, ça, tout à coup, la question est adressée. Elle trouve son destinataire. C'est pas les humains, c'est pas les ours blancs. C'est ceux qui fuient, qui ont à subir cette situation questionnante. Elle trouve sa ferveur et aussi sa bonne formulation, c'est-à-dire si Gaïa pose une question, nous met en situation questionnante, nous, les modernes qui fuyons, qui avons peur, c'est éventuellement que la question n'est pas « nous en tirerons-nous ?» grosse question, peu intéressante pour moi puisque je serai morte, donc pas question, mais comment répondre à ce que moi j'appelle l'intrusion de Gaïa. C'est-à-dire que nommer Gaïa, faire de Gaïa un être, et en plus avec un nom d'une divinité, ça a l'efficace de « accepterons-nous ça ?» Et on sait que pour beaucoup, l'anthropocène c'est tellement bien, c'est une matière à dissertation. Gaïa c'est « mais pourquoi nommez-vous une déesse ?» Et tout à coup, le nom qu'on donne devient plus important que le problème. Plutôt que de nommer Gaïa, autant, c'est le monstre Gaïa, autant continuer à courir à reculons, et mourir dans la dignité, plutôt que de se laisser séduire par cela. Donc, Gaïa active, nous met à la devine, et demande ferveur pour répondre, parce que c'est aussi la ferveur d'oser non seulement se retourner, mais aussi, comment dirais-je, se fabriquer, hériter autrement de ce qui était censé nous poursuivre dans le passé. Donc Gaïa nous a comme destinataire, et de nouveau ici humour, hein, parce que, ah bon, c'est ça, menace objective déchiffrée par le GIEC, tout est menacé, des forêts tropicales aux ours blancs, etc. Et puis vous dites, ah ben la question de Gaïa, celle auxquelles nous devons réponse, c'est dans notre petite histoire qu'on va régler ici à Cerisy. Allez. Eh bien oui, humour de la situation, parce que une situation questionnante fait d'abord question pour ses destinataires. C'est pas une question générale. C'est une question qui s'adresse à ceux qui sont concernés. Et donc, je dirais, comme le rabbin, mais oui, tu as raison, c'est pas ça. Mais, pas de question sans destinataire. La menace objective n'est pas une question. La seule question, c'est celle qui trouve son destinataire et qui met en jeu les ressources de ce destinataire pour répondre à cette formulation-là. Et donc, la question, c'est jamais qu'allons-nous faire, mais de quoi sommes-nous ici, tous, chacun selon notre mode capable, et s'il y a instauration, ce serait alors instauration de ce possible qu'il est, que nous pouvons échapper à cette ornière qui fait que nous préférerons continuer à tourner le dos à Gaïa, mais à maintenir notre dignité de moderne. Il est possible, et ce possible-là, c'est plus un possible philosophique, c'est un possible rhizomatique. Faire exister ce possible, c'est-à-dire lui donner, au sens de Souriau, sa consistance, ce qui lui permettra de recruter, comment dirais-je, d'autres pour qui c'est possible, ce serait ici. Donc c'est le possible lui-même qui doit gagner sa consistance et pas un quelconque salut du genre humain face à Gaïa. Dernier point de lucidité, et puis j'arrête, je le jure, attention, avec ferveur et lucidité, j'aime bien ça parce que ça fait épreuve pour nous modernes. On est revenu de ça tout de même. Non, on n'est pas... Qui vous a dit que vous pouviez revenir d'où que ce soit ? Par contre, faut pas... Ce serait une tentation de dire, ça y est, c'est le blason du genre humain. Ferveur et lucidité. Non. C'est plutôt le blason d'un peuple très particulier dont les autres peuples humains ont expérimenté le caractère redoutable. J'appellerais ça un peuple, je prends ce risque, un peuple d'entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui ne sont rien sans la morsure du « ce pourrait être possible ». Ce sont les entrepreneurs qui peuvent donner sens à cette situation questionnante de faire venir au monde quelque chose qui demande existence. D'autres disent, peuvent dire d'autres choses. Il s'agit de les écouter, il s'agit de ne pas encore une fois retomber dans la position où ça y est, nous avons trouvé des bons mots que tout le monde devra accepter. Ne pas retomber dans l'ornière de parler pour le genre humain. Donc nous nommer et nous présenter comme peuple d'entrepreneurs qui pourrait, et c'est de ça qu'il s'agit, être... Reconnaître que nous ne sommes rien, donc, sans la morsure d'un possible à réaliser, mais poser le problème de nous pourrions être civilisés. Le reconnaître pourrait faire partie d'une opération de civilisation, et c'est-à-dire nous pourrions éventuellement apprendre, comme le demandait chacun à sa manière, Whitehead, Leibniz et James, de ne pas conférer aux raisons qui nous font entreprendre le pouvoir de nous anesthésier, c'est-à-dire aussi, retrouver, réapprendre un minimum d'art de discernement quant à ce que nous demandent ces idées et ces raisons qui nous font entreprendre. Je vous remercie.